Alors que le paysage belge est clivé, isolé par les mesures Covid, les inégalités explosent et le secteur culturel est déclaré non essentiel. Pourtant, cette période est en tournant pour nos sociétés. Il est temps que l'on se réapproprie notre histoire commune, que l'on relance la culture. Bref, c'est le moment de renaître. Depuis 2018, à Esperanza, nous avons mis en place le plan Sacha qui vise à lutter contre les violences sexuelles et sexistes en milieu festif. Effectivement, nous nous sommes rendus compte que tant qu'on n'y prêtait pas attention, il est facile de passer à côté de violences qui touchent près de la moitié de la population. Alors après hashtag MeToo, hashtag balance ton porc, Sacha semble être une vraie réponse à notre échelle suite à cette vague de témoignages. Cette année-là, au festival, le collectif La Barbe monte sur scène et dénonce le ratio de femmes sur l'affiche trop faible vis-à-vis du ratio d'hommes. Personne ne dira le contraire. La dernière vague féministe est hyper puissante et rend beaucoup de pouvoir aux personnes concernées. Aujourd'hui, féministe s'est popularisée grâce à des icônes telles que Ise ou encore Angèle. Malgré tout, il y a encore quelques mois, un prestateur radio se permet de critiquer ouvertement le physique d'Oshi. Des scandales explosent également et on apprend que des artistes tels que Romeo Elvis ou encore Moa Lascal sont accusés de violences sexuelles. Aujourd'hui, des chanteuses finissent par s'autoproduire et mettent en place des mécanismes de survie dans leur milieu. Les femmes et les minorités de genre sont souvent les cibles d'agressions et le milieu culturel n'est pas épargné, tant en tant qu'artistes que travailleurs et travailleuses qu'en tant que public. Ces constats nous poussent à devoir trouver des solutions et agir collectivement. Quels sont les enjeux pour les féministes en 2021 ? Nous aurons le point de vue du plan Sacha, qui fait partie de notre festival.
Donc, vous nous avez peut-être déjà vus à Esperanza, avec nos stands, nos bénévoles, avec nos outils, etc. On parle de consentement avec les festivaliers et festivalières.
Ensuite, Maggie viendra nous parler d'intersectionnalité.
Non seulement on peut voir les intersections auxquelles une personne peut faire face, mais aussi ça permet de montrer les privilèges que certains groupes ont par rapport à d'autres groupes.
Ensuite, Setoka viendra témoigner de son expérience de jeune rappeuse.
Mais oui, effectivement, j'ai eu des personnes un peu malveillantes qui ont voulu plus que parler musique avec moi, mais voilà, on leur fait comprendre que c'est pas possible comme il faut.
Et nous terminerons par Maya du collectif de lutte anticarcérale qui viendra nous parler de justice réparatrice.
En fait, nous, on aimerait bien remettre du systémique là-dedans et expliquer que les agressions, elles sont permises par un système.
En tant qu'acteur culturel, à Esperanza, nous pensons que nous faisons partie de la solution. Il est impératif de recréer des espaces de débat, de confronter nos points de vue, de faire front ensemble et de trouver des alternatives viables pour une société plus juste. Alors ensemble, changeons les normes et faisons un détour vers un futur démocratique, social, écologique, antiraciste, féministe et queer.
Moi, c'est Cécile. J'utilise le pronom « elle ». J'ai rejoint le plan Sacha récemment et je me définis comme queer féministe.
Et du coup, moi, enchantée, c'est Ellie. Je travaille du coup pour le plan Sacha depuis octobre 2020. Je m'en fous un peu du genre. J'utilise un peu tous les pronoms. Coucou maman, ceci est un coming out non binaire. Ouais, je me définis du coup comme queer. Je suis blanche, je préfère le dire. Je trouve ça quand même important aussi de l'assumer. Plan Sacha, pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, donc c'est le plan de lutte contre les violences sexistes et sexuelles en milieu festif, et donc qui existe maintenant depuis 2018, et qui a trois axes. L'axe de formation, donc nous on forme des bénévoles. Dans le futur, on va former aussi des organisateurs et organisatrices d'événements. Et on a un axe aussi de sensibilisation. Donc, vous nous avez peut-être déjà vus à Esperanza, avec nos stands, nos bénévoles, avec nos outils, etc. On parle de consentement avec les festivaliers et festivalières. Et ensuite, il y a le dernier axe, qui est un des plus importants, qui est celui de la prise en charge. Donc, quand vous allez à des événements où il y a un plan Sacha, eh ben, il y a un service de prise en charge psychosociale 24 heures sur 24, avec des psys. Et donc, si vous êtes victime ou même témoin, vous pouvez appeler, envoyer des SMS, etc. Et il y a des gens qui s'occupent de vous.
Le plan Sacha est porté par une multitude et une pluralité de personnes qui portent des féminismes qui sont différents, mais qui se complètent et qui s'articulent les uns aux autres. Et l'idée, c'est que ces différentes luttes, ces différentes tactiques, ces différentes stratégies féministes s'articulent les unes aux autres pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles au sein des milieux festifs. Nous, dans le plan Sacha, on distingue trois choses. Et là, on s'appuie sur un outil qui s'appelle la licorne du genre. On distingue les identités de genre qui, en fait, correspondent à comment on se définit. On distingue les sexes qui s'apparentent plutôt au corps. Et enfin, on distingue les expressions de genre qui s'apparentent plutôt à l'apparence.
On demande souvent aux personnes qui se définissent féministes « Tiens, mais est-ce que vous détestez pas les hommes ?» Moi, je trouve que ça détourne un peu la question, surtout quand on voit tout ce qui est statistique au niveau des violences sexistes et sexuelles. Bah voilà, par exemple, là, on est à la moitié de l'année, il y a déjà 13 femmes qui ont été tuées sous les coups de leur ex-conjoint, leur conjoint, aussi travailleuses du sexe, etc. Et donc, moi, la question qui me taraude plus, c'est « Tiens, est-ce qu'il n'y a pas plutôt des hommes qui détestent des femmes ?» Bon, au vu des chiffres, je pense que c'est pas pour rien que le terme misogynie existe. Et par contre, ce qu'on déteste, c'est plutôt un système qui donne l'impression aux hommes qu'en fait, ils peuvent se permettre des violences, des abus, etc. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'on déteste et ce qu'on a envie de faire changer. Et qui, je pense, toute personne, qu'importe son genre, a envie de changer ça, quoi. Ou devrait, en fait, avoir envie. Pour les enjeux, en fait, qui traversent actuellement le plan Sacha, bon, il y en a à peu près des millions. Maintenant, dans les principaux, il y a la question des demandes. Il faut savoir que le plan Sacha, pour le moment, on est deux personnes employées et bientôt, ça sera plus qu'une personne. Sauf qu'on a énormément de demandes parce qu'on est les seuls à s'occuper de la question du consentement dans ce milieu spécifique qu'est le milieu festif. Et donc, quand on a des hashtag balance ton folklore ou ce genre de même hashtag balance ton porc, ben en fait, ce qui se passe, c'est que il y a des organisateurs d'événements, on a des festivals, on a des échevines de villes qui viennent nous contacter en disant bon ben voilà, moi j'aimerais bien mettre en place un plan Sacha. Moi, j'aimerais bien faire une formation. Et voilà, nous, on est vraiment des petites mains. Et donc, il y a aussi une question d'argent, aussi concrètement, pour pouvoir continuer, être plus, et aussi arrêter de faire du bénévolat. Parce qu'en fait, dans les milieux féministes, en fait, on est concernés. Et donc, c'est usant et c'est très ralent de devoir travailler gratuitement pour des choses où ça nous concerne aussi directement. Et donc, voilà, ça, c'est un des enjeux qui est question de l'emploi et d'être plus pour pouvoir s'occuper de plus de monde. Parce qu'en fait, si nous, on s'en occupe pas, il y a personne qui le fait, quoi. Après, il y a une autre question qui je pense, un petit peu traverse aussi d'autres mouvements féministes, c'est qu'est-ce qu'on fait des agresseurs? Qu'est-ce qu'on fait de toute cette violence? Parce que la réponse, en tout cas, qui est souvent donnée, c'est l'exclusion. Ben voilà, on va mettre quelqu'un en dehors du festival ou alors dans la société, c'est on va mettre la personne en prison. Sauf que voilà, nous, c'est pas vraiment une solution. Enfin, je pense pas que ça soit déjà arrivé que des mecs, ou n'importe quelle personne, n'importe quel genre, sortent de prison en disant « Maintenant, je suis un super allié, je suis super déconstruit ». Non, ça n'arrive pas. Or, c'est aussi ce qu'il faut, c'est déconstruire ce qu'on appelle aussi la culture du viol, que ce soit dans des films, on monte des scènes. Même dès l'enfance, c'est normal de soulever la jupe des filles, c'est déjà des petites choses. Et donc, pour le moment, c'est des questions qui traversent le plan Sacha. Qu'est-ce qu'on fait des agresseurs? Est-ce qu'on les met purement et simplement dehors? Est-ce qu'on prend un temps pour expliquer? Mais juste 10 minutes ou même une heure au moment du festival, c'est un peu compliqué. Imaginons si la personne elle a bu en plus. Et on ne sait pas forcément faire un suivi après. Et si on voulait faire un suivi après, du coup, logistiquement, en termes d'argent, ça demanderait du gros suivi, quoi. Mais quand je parle d'agresseurs, je parle pas seulement des festivaliers et des festivalières. Ça peut autant être des membres de l'équipe que aussi, en fait, des membres des affiches, des line-up, de la programmation. Et c'est vrai que, voilà, c'est des questions qu'on peut avoir quand on a un Moa Lasquale, quand on a un Romeo Elvis. Bon, là, on a deux cas différents. On a un Moa qui, je pense pas qu'il ait présenté d'excuses et qu'il ait assumé. Et à l'inverse, on a un Romeo Elvis qui assume, qui s'excuse. Mais qu'est-ce qu'on fait? Typiquement pour Esperanza, il y a déjà eu Roméo Elvis à l'affiche, mais c'était avant qu'il y ait ces aveux qui soient sortis dans la presse, etc. Voilà, comment est-ce qu'un festival est censé réagir? Comment est-ce qu'on fait pour la suite? Est-ce que c'est des gens qui sont blacklistés? Mais blacklistés pour combien de temps? Est-ce que c'est à vie? Est-ce que c'est pendant 5 ans? Et ça, c'est des questions aussi compliquées. Et ça peut même arriver que voilà, y ait des artistes. C'est des positions où, en fait, t'es un peu en position de pouvoir et donc tu peux profiter des petites bénévoles qui passent. Et donc même, il faut avoir aussi un œil sur ça. Bon, imaginons, on a un artiste qui agit avec des comportements sexistes. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le jour même, ben, on annule et on explique? Voilà, ça, c'est des enjeux qui nous traversent dans le plan Sacha, mais qui doivent aussi traverser les structures avec qui on travaille, parce que ça, c'est aussi des décisions ben, qui sont les leurs. Nous, on peut pas dire... Vous, maintenant, vous annulez votre tête d'affiche. C'est à eux de prendre cette décision-là. Et c'est une décision difficile, parce que ça a aussi un coût, etc. Ou alors, il faut l'écrire dans les contrats. Merci de respecter nos bénévoles.
Je m'appelle Maggie Ikoulou, j'ai 29 ans et je suis chargée de plaidoyer pour BIPAX et chargée de projet Montfort Napar, qui est un projet européen au service de la coalition Napar, donc qui a pour but de mettre en place un plan d'action contre le racisme en Belgique. Et je me définis aussi comme une militante afroféministe antiraciste et décoloniale. Donc l'intersectionnalité, c'est une grille de lecture qui permet de voir en fait tous les axes d'oppression qu'il existe dans une société et auxquels une personne peut faire face. Et ce qui est bien aussi avec cette grille de lecture, c'est que non seulement on peut voir les intersections auxquelles une personne peut faire face, mais aussi ça permet de montrer les privilèges que certains groupes ont par rapport à d'autres groupes. Alors par exemple, je vais donner le cas d'une femme voilée. Elle fait face à différentes oppressions en tant que femme d'une part et en tant que femme voilée d'autre part, parce qu'elle va subir le sexisme et elle peut subir aussi l'islamophobie. Et ça peut aussi aller beaucoup plus loin quand on est face par exemple à une femme noire handicapée, etc., une femme noire cuir. Donc ça permet vraiment de voir les intersections, les dominations, les oppressions auxquelles une personne peut faire face. Ce terme a longtemps été bloqué dans la sphère académique. Faut savoir que c'est pas du tout un nouveau terme, il existe, il a été popularisé et théorisé par Kimberly Crenshaw déjà dans les années 60, donc aux États-Unis, et il est arrivé sur la scène européenne dans les années 90. Donc c'est quand même il y a 30 ans, hein. Mais c'est vrai qu'il s'est davantage vulgarisé et popularisé au niveau de la société civile, avec une reprise médiatique et politique assez récemment, et c'est pour ça que les gens pensent que c'est un terme nouveau, alors que pas du tout en fait. Pour moi, les premiers outils à mettre en place, c'est vraiment les lois. C'est changer les lois, mais les rendre plus performantes, plus efficaces. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des lois qui reconnaissent le sexisme, on a des lois qui reconnaissent le racisme, mais qui ne définissent pas ce que c'est, et qui ne reconnaissent pas les dimensions systémiques de ces deux fléaux, de ces deux oppressions et dominations. Et tant qu'on n'ira pas dans l'aspect systémique et qu'on ne reconnaîtra pas que notre système entier et la structure sociale dans laquelle nous vivons est fondée sur le racisme notamment et sur le sexisme aussi, on ne pourra pas réellement mettre des outils en place pour lutter efficacement contre ces deux dominations. Donc moi, je dirais que vraiment la première chose à faire, c'est de revoir nos lois.
Sur le sol, je me fais du mal depuis des années. La main sur les yeux, pas envie de la retirer. Y a pas de place pour les fables. y a pas de place pour les regrets. Le cœur sur le sol. Relève-toi, faut pas déconner. J'ai ce bruit dans ma tête et j'aimerais que ça cesse, mais en vain. J'ouvre un peu les yeux, des couleurs, des photos me reviennent. Tous ces bruits dans ma tête, faut que ça cesse. J'ai perdu la tête, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, quoi qu'il advienne. Le regard des gens, j'en ai que faire. Qui sont-ils pour me juger? Un pardon à mon père. Insolente, je l'étais. Dans les yeux de mon frère. Ouais, des claques, ils sont ébouffés. Sur les joues de ma mère, des rivières se sont écoulées. J'ai ce bruit dans ma tête et j'aimerais que ça cesse, mais en vain. J'ouvre un peu les yeux, des couleurs, des photos me reviennent. Tout ce bruit dans ma tête, faut que ça cesse. J'ai perdu la tête. Chemin de ma maison. Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. Advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête, ouais. Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. Et...
Hey. Un peu de toi, un peu de moi, c'est tout cette fille que tu me suis. Les larmes coulent sur mes joues, à chaque fois que je le prie. C'est quand la guerre commence que les balles virent de mon 9000 et le tire dans le 1000. Ton cœur la cible, c'est quand je ride que je reste encore un peu dans ma folie. Je perds la raison quand mon cœur est à toi, tu perds la raison quand je ne suis plus à toi. Si tu savais qui attendait ta chute, tes potes se résument à traître ou à pute. Tu passes par le labyrinthe de mon cœur, il te faudra plus d'un plan pour me connaître. Vérité fausse, y a que R qui connaît la clé de mes peurs, hey. Ça sort bientôt, ça.
Nice.
Bonjour, donc voilà, je m'appelle Setoka, j'ai 20 ans, je suis artiste et je fais de la musique maintenant depuis quelques années, mais je m'y suis mise sérieusement depuis novembre, j'ai sorti mon premier clip depuis novembre 2020. J'ai eu des personnes un peu malveillantes qui ont voulu plus que parler musique avec moi, mais voilà, on leur fait comprendre que c'est pas possible comme il faut, tout simplement. Pour moi, je pense que chaque femme a son côté masculin comme chaque homme a son côté féminin. Alors garçon manqué, ben oui, parce que quand j'étais petite, j'étais la seule fille à jouer au foot avec les gars. Et alors toutes les filles, elles se disaient « Ah, mais c'est un garçon manqué, c'est un garçon manqué ». Mais je pense que non, je pense qu'on peut être féminine tout en faisant du rap. Voilà, je dis des phrases, je dis des phrases vraies avec bon qui sont un peu choc, mais voilà, je garde mon côté féminin. La preuve, il y a plein d'artistes. Diams, elle s'habille en jogging, elle est en mode bonhomme, et pourtant elle était très féminine. Doria aujourd'hui, Yana Kamura aussi est hyper féminine. Donc, et je pense qu'à un moment de sa vie, on se tâte. Et c'est pas parce qu'on s'habille de telle manière que on n'est pas féminine. Non, je pense qu'on peut être même garçon manqué en étant féminine. Être managée par une femme, c'est totalement par hasard. Totalement. Et je suis pas du genre à dire non, moi je veux que des femmes dans mon équipe. Non, je suis pas dans ce mood-là du tout. Et d'ailleurs, même avoir un homme dans mon équipe, ce serait pas de refus. Parce que j'estime que déjà, il faut avoir un minimum de confiance, que ce soit envers une femme ou envers un homme. Et il faut un feeling aussi. Donc je pense que femme ou homme, on a besoin de l'un de l'autre. Donc c'est vraiment un pur hasard. Et c'est chouette aussi être deux femmes. Ça fait peur des fois. Ça fait peur aux hommes. Parce qu'on a deux gros caractères et voilà.
Bonjour, je m'appelle Maya, je fais partie de la CLAC, c'est l'acronyme de Collectif de lutte anticarcérale. C'est un collectif qui lutte pour l'abolition des prisons et du système pénal tel qu'il est. Enfin, il y a deux parties, quoi. Il y a la partie qui est comment c'est géré par le système pénal qu'on critique, où la victime existe très peu et on a tendance à rendre l'auteur monstrueux, comme si son comportement était... individuel et lié souvent à une histoire personnelle, etc. Et qui n'est pas spécialement bien prise en compte non plus. En fait, nous, on aimerait bien remettre du systémique là-dedans et expliquer que les agressions, elles sont permises par un système et en fait validées. Il y a la partie où ce que nous, on essaye de faire et de créer autrement. Et donc, c'est essayer que ce comportement ne se reproduise pas, mais aussi essayer de voir à quel point il est partout. En fait, parler de viol ordinaire, etc. et pas faire du violeur une figure de monstre, mais plus voir comment ça apparaît et comment ça structure notre société et nos vécus en tant que personne, humain, individu et groupe. Ça veut aussi dire essayer de créer des milieux où ça se passe moins et essayer de créer des réactions à ça qui permettent que ça se passe plus et qui fonctionnent en tout cas pas comme le système pénal et qui font exister la personne qui a été la cible de l'agression dans le processus, qui sont plus à l'écoute de ses besoins en tant que personne cible. Ben, y a plein d'expériences de justice transformative. Enfin, c'est comme ça que s'appelle le processus, un peu en opposition au système pénal actuel, dans l'idée qu'il y a un réel changement, quoi. Et donc, y a plein d'expériences, ça existe depuis super longtemps. Et oui, moi, j'en ai déjà vécu, mais pas avec une réelle procédure collective. Enfin, une procédure collective, mais assez isolée avec des amis. Et en fait, on se rend compte que souvent, dans le milieu militant, en tout cas, ou dans d'autres milieux, c'est comme ça que ça se passe. C'est des réactions qui sont isolées. Et souvent, il y a un groupe de soutien autour des personnes qui ont été les cibles ou de la personne cible de l'agression. Et un groupe de responsabilisation. C'est un peu des formes connues de justice transformative. Un groupe de responsabilisation qui va se charger d'entourer l'auteur, de faire en sorte que cette personne change ou ne reproduise pas ce comportement. Et donc ça existe et j'ai l'impression que ça a pu exister dans ma vie. Mais ce pourquoi on lutte aussi, c'est pour que ce soit beaucoup plus collectivisé et que les ressources qui donnent accès à ça soient collectivisées. Et ça, c'est vraiment l'objectif de Matrice, qui est du coup un réseau collectif nouveau, bruxellois, et qui essaye de rendre accessibles des outils, de former une espèce de boîte à outils virtuelle avec des traductions et des résumés autour de ces questions-là. aussi, enfin, je pense à Roméo Elvis. En vrai, il y a plein d'autres rappeurs qui sont pas blancs, pas mecs, qui sont pas cis et qui sont pas violeurs. Et donc, j'aurais envie de dire oui, faisons passer d'autres gens. Et en fait, ça attirera peut-être plus de meufs qui se sentiront à l'aise. Il y a peut-être des personnes qui se sentent pas à l'aise de voir Roméo Elvis sur une scène. Et en fait, ça va exclure toute une partie de femmes qui sont en souffrance par rapport à ça et rameuter un autre public. Et donc, c'est des questions hyper compliquées, quoi. Enfin, pour moi, quand il s'agit de personnes qui ont du pouvoir, en fait, alors c'est un peu plus compliqué. Mais s'il y a un processus, enfin, ça serait trop cool. Nous, on réfléchit à petite échelle, du coup, mais ça serait trop cool qu'il y ait des processus qui se mettent autour de ces personnes-là qui ont plus de pouvoir et de réfléchir ensemble, quoi.
Le constat est unanime. On vise le système du patriarcat qui permet aux hommes de maintenir une position de domination. Il y a une réelle urgence à apporter un soutien et une écoute aux personnes ciblées par ces agressions, ainsi qu'au système en place et collectif qui crée ces violences. À Esperanza, on a mis en place le plan Sacha, qui répond à une partie du problème sur notre événement. Mais malgré tout, on reste avec pas mal de questions sur les bras. Que faisons-nous des agresseurs ? Comment ne pas recréer de l'exclusion qui est une solution qui semble très individuelle pour un problème finalement très collectif ? Il y a plein d'interrogations sur ce qu'il reste à faire. Ce n'est pas un mouvement figé et il n'arrête pas d'évoluer, tout comme l'intersectionnalité. Cela fait des années que des concepts existent, que des expérimentations se passent. Il faut pouvoir continuer à échanger et partager nos ressources pour ensuite les populariser et construire un futur féministe. Alors rendez-vous à Esperanza pour faire un détour vers un futur encore plus féministe. Ce podcast a été réalisé par Esperanza Music Festival en collaboration avec Tout va bien dans le cadre de sa campagne en éducation permanente, avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Tout d'abord, merci à Malaika et Fred, merci à Radio Panique pour son accueil, merci à Ellie et Cécile pour le plan Sacha, à Maggie pour Big Pax et Maya de la Claque. Merci également à Setoka pour sa parole de jeune artiste. Merci à Laura pour sa sélection musicale de feu. Vous pouvez retrouver les détails de celle-ci dans la retranscription de cet épisode. Un tout grand merci à Ultravague pour son montage, mixage et spécialement à Cassie pour ses nombreux conseils. Merci également au travail des personnes du Village des Possibles qui sont venues alimenter les prémices de ce projet et que l'on retrouvera sur le festival.